Chapitre 8. Immersion.
Il s'est arrêté ?
Vivacia était stupéfaite.
Non !
Yéma poussa un cri aigu de petit garçon. Il fit volte-face, se précipita du gaillard d'avant vers le tillac qu'il traversa en courant, puis se rua vers la descente des cabines. Seule la crainte de la mort avait maintenu le pirate en vie. Quand Yéma et Vivacia l'avaient persuadé de ne pas avoir peur, Kenith avait lâché prise. Le garçon entra sans frapper dans la chambre du capitaine. Eta leva les yeux, étonnée et furieuse de son irruption intempestive. Elle était en train de plier des bandages ouatés. Alors qu'il se précipitait au chevet de Kenith, elle les jeta par terre et voulut lui barrer le chemin.
« Ne le réveille pas, il se repose enfin !»« Non, il cherche à mourir !»
protesta-t-il en la poussant de l'épaule. Il prit la main du pirate et l'appela par son nom. Il n'eut pas de réponse. Il lui tapota la joue, la claqua plus sèchement, la pinça doucement d'abord et plus fort pour provoquer une réaction. En vain. Kenith ne respirait plus. Il était mort. Kenith s'installa dans le noir, emporté avec douceur comme une feuille qui tombe dans la forêt. Il se sentait à l'aise, bien au chaud. Un fil de souffrance ténue, argentée, l'ancrait encore à la vie, plus fragile à mesure qu'il sombrait. Bientôt, le fil disparaîtrait et il serait délivré de son corps. Cela ne semblait pas mériter son attention. Rien ne semblait mériter son attention. Il se laissa partir et perçut que sa conscience se dilatait. Jamais auparavant il n'avait compris à quel point les pensées sont à l'étroit, confinées à l'intérieur du corps. Tous ces soucis dissonnants, toutes ces idées se mélangeaient pêle-mêle comme du butin dans le sac d'un marin. À présent, ils pouvaient se répandre, se détacher les uns des autres. Chacun pouvait prendre sa dimension propre. Brusquement, il sentit qu'on le tirait. Une insistance à laquelle il ne put résister, qui le ramena au-dedans de lui-même. Il y céda à contre-cœur. Mais alors, il y eut un moment d'incertitude. Il s'y mêla confusément. L'impression d'être plongé dans une marmite où mijote une soupe de poisson. D'abord une chose, puis une autre qui remonte à la surface pour flotter puis disparaître. Il était une femme qui démêlait ses longs cheveux en contemplant l'eau d'un air songeur. Il était Ephron Vestrit, et par ça, tempête ou pas, il rapporterait sa cargaison intacte en temps voulu. Il était un navire. L'eau froide passait sur son étrave en susurrant. Des poissons étincelants filaient sous lui et les étoiles brillaient au-dessus. Plus profonde, plus haute et plus large que toutes les autres, les englobant toutes et pourtant aussi minces qu'une couche de lac, il y avait une autre conscience qui déploya ses ailes et s'éleva dans un ciel d'été. Cette conscience-là l'attirait davantage. Et quand elle fut emportée loin de lui, il essaya de la suivre. « Non !» lui interdit quelqu'un, doucement mais fermement. « Non, je ne vais pas là-bas et toi non plus !» Quelque chose le tirait en arrière et le maintenait rassemblé. Il se sentit comme un enfant dans les bras de sa mère, protégé et chéri. Elle l'aimait. Il se blottit dans son étreinte. Elle était le navire, l'adorable, l'intelligent navire qu'il avait pris de haute lutte. Le réveil du souvenir fut comme un souffle sur les braises de son être. Il s'illumina et fut presque conscient de ce qu'il avait été. ce n'était pas ce qu'il désirait. Il se roula, s'enfouit, s'immergea en elle, devint elle. Adorable. Adorable navire, coque au creux de l'eau, voile sous la caresse du vent, je suis toi et tu es moi. Quand je suis toi, je suis merveilleux et sage. Il la sentit amusée par la flatterie, mais flatterie ce n'était point. En toi, je pourrais être parfait. Il cherchait à se dissoudre, mais elle le gardait entier. Elle se remit à parler, mais ses paroles s'adressaient à un autre. « Je l'ai, là. Tu dois le prendre et le ramener. Je ne sais pas comment. » Une voix de garçon répondit, vague et ténue comme la fumée, lointaine. La peur le faisait bredouiller. « Je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Comment peux-tu l'avoir? Comment puis-je le prendre? Le ramener, mais comment? Le ramener, mais où ça? La voix juvénile implorante, désespérée, résonna quelque part en lui. Elle éveilla les échos d'une autre voix de garçonnet, tout aussi désespérée, tout aussi implorante.
Je vous en prie, je ne peux pas faire ça. « Je ne sais pas, je ne veux pas, je vous en prie, monsieur, je vous en prie. »
C'était la voix cachée, la voix secrète, la voix à laquelle il ne fallait jamais répondre. Personne ne doit l'entendre, personne. Il se jeta dessus, s'enroula autour et la fit taire. Il l'absorba en lui pour la sceller. Le désaccord, clé de son être, se rétablit. Il frissonna de colère. On l'avait forcé à redevenir lui-même.
« Comme ça !» dit-elle soudain à l'autre. « Comme ça ! Retrouve les morceaux de lui-même et réunis-les. »
Elle ajouta plus doucement.
« Vous vous correspondez presque par endroits. Commence par cela. » « Qu'est-ce que tu veux dire par « se correspondre » Comment peut-on se correspondre? Je voulais simplement dire que par certains côtés vous vous ressemblez. Vous partagez davantage que vous n'imaginez. N'aie pas peur de lui. Prends-le, rends-le à lui-même.
Il s'accrocha à la vive nef plus fermement que jamais. Il ne se laisserait pas séparer d'elle. Tel un forcené, il chercha à se faufiler en elle, à entrelacer leurs consciences, comme on tord ensemble des brins pour en faire une corde. Si elle ne le repoussa pas, elle ne l'accueillit pas non plus. Mais il se sentit rassemblé. On l'offrait, lui, à une entité qui était tout ensemble, elle, et distincte d'elle.
« Voilà, prends-le. « Fais-le revenir. »
Le lien entre les deux était étonnamment complexe. Ils s'aimaient et luttaient cependant pour ne pas se fondre l'un dans l'autre. Les rancœurs brûlaient comme un incendie de forêt isolée dans le paysage de leur relation. Ils ne pouvaient discerner où finissait l'un, où l'autre commençait. Pourtant, chacun affirmait nettement être possesseur d'une âme trop grande pour loger dans un seul être. Les ailes déployées d'une créature primitive les abritaient tous deux et les couvraient de leur ombre sans qu'ils en soient conscients. De drôles de petits êtres aveugles, tâtonnant au sein d'un amour qu'ils craignaient de reconnaître. Ils étaient incapables de percevoir que pour gagner, ils n'avaient qu'à se rendre. La beauté de l'entité qu'ils auraient pu former ensemble lui fut douloureuse. C'était l'amour qu'il avait cherché toute sa vie, un amour rédempteur qui le perfectionnerait. Cet amour-là, son plus grand désir, il le redoutait, il l'évitait.
« Reviens, je t'en supplie. »
C'était la voix du gamin, implorante.
« Kenneth, je t'en supplie, choisis la vie. »
Le nom, formule magique qui le ligota en le définissant. Le garçon le sentit.
« Kenneth !»
Il répéta le nom d'une voix enjôleuse.
« Kenneth, je t'en supplie, Kenneth, vis !»
À chaque frôlement du nom, il se solidifiait davantage. Des souvenirs se coagulèrent autour du nom, formèrent une croûte sur l'ancienne blessure de sa vie en l'y enfermant hermétiquement.
« Je t'en prie, »
supplia-t-il. Il chercha le nom de son bourreau.
« Yéma,
je t'en prie, laisse-moi m'en aller.
Yéma. »
En l'appelant, il tâchait de ligoter le gamin comme il avait été ligoté. Mais au lieu de plier Yéma à sa volonté, il se retrouva bloqué par la conscience qu'il eut du garçon.
« Kenneth !»
le salua Yéma avec enthousiasme.
« Kenneth, aide-moi, reviens à toi, redeviens toi-même, rentre dans ta vie. »
Alors, une chose curieuse se produisit. Ils se mêlèrent l'un à l'autre. Yéma, qui saluait le retour à la conscience de soi de Kenneth, et Kenneth, qui sentait Yéma. Des souvenirs bouillonnèrent, se libérèrent en cascade de leur possesseur. Un garçon pleurait en silence dans la nuit, la veille de son départ pour le monastère. Un garçon poussait des cris de terreur en regardant son père combattre à mort, tandis qu'un homme le tenait en criant. Un garçon se débattait et hurlait de douleur, tandis qu'on lui tatouait sur la hanche une étoile à sept branches. Un garçon méditait, voyait des formes de dragons dans les nuages et des images de serpents dans l'eau tourbillonnante. Un garçon luttait avec son bourreau qui l'étranglait pour le faire obéir. Un garçon était assis, immobile, transporté par un livre.
Un garçon étouffait, haletait, en résistant au tatouage de son visage. Un garçon s'exerçait des heures durant à la calligraphie. Un garçon appliquait sa main sur le pont et refusait de crier tandis qu'on lui coupait un doigt infecté.
Un garçon souriait et transpirait de joie tandis qu'on lui effaçait le tatouage sur la hanche. La vive nef avait raison. Ils se croisaient, se rejoignaient en mains endroits. Les correspondances étaient indéniables. Ils se chevauchaient, ils étaient l'un l'autre, puis se séparaient. Kenneth se connut lui-même à nouveau. Yéma se recroquevilla devant la dureté de l'enfance du pirate. Une vague de pitié et de compassion submergea Kenneth. Elle provenait du garçon qui tendit son esprit vers lui. À son insu, il cherchait à recoller les morceaux que Kenneth avait délibérément détachés de lui-même.
« C'était toi, tu dois les garder, » insistait Yéma. « Tu ne peux pas rejeter des parties de toi-même simplement parce qu'elles sont douloureuses. Reconnais-les et continue. »
Le garçon n'avait aucune idée de ce qu'il était en train de dire. Cet être pleurnicheur, infirme, ne pourrait jamais faire partie de Kenneth, le pirate. Kenneth se défendait de cet enfant comme il l'avait toujours fait. Il repoussa Yéma avec colère et mépris et rompit le lien d'empathie qui les avait brièvement unis. Avant qu'ils se séparent, il prit conscience d'avoir blessé le garçon. Pour la première fois depuis des années, il connut la brûlure du remords. Il n'eut pas le temps d'y réfléchir car il entendit, comme venant de très loin, une voix de femme qui l'appelait par son nom.
« Kenneth ! Oh mon Kenneth, je t'en prie, ne t'en va pas, Kenneth !»
La douleur inévitable définit les limites de son corps. Il avait un poids sur la poitrine et la sensation que sa jambe se terminait de façon aberrante. Il prit une profonde inspiration qui râpa sa gorge à vif, irritée par l'alcool et la bile. Comme s'il dérapait une ancre par ses seules forces, il souleva péniblement les paupières. La lumière lui brûla le cerveau. La putain était cramponnée à sa main gauche qu'elle baignait de larmes. Son visage humide et ses cheveux en désordre, ses cris aigus, c'était intolérable. Il essaya de se dégager d'une secousse, mais il était trop faible.
« Etta, arrête, s'il te plaît »
croassa-t-il.
« Oh, Kenneth !»
s'écria-t-elle, saisie de joie.
« Tu n'es pas mort, oh mon amour !»« De l'eau !»
dit-il, autant pour se débarrasser d'elle que parce qu'il avait soif. Elle bondit, se précipita vers la carafe posée sur le buffet. Il avala, la gorge sèche, puis poussa d'un geste vague le poids sur sa poitrine. Poilu, des cheveux rêches sous sa main, un visage en sueur. Il parvint à soulever un peu la tête pour regarder. C'était Yéma. D'abord assis à son chevet, il s'était effondré sur le malade. Les yeux clos, le teint terreux, les joues striées de larmes. Il pleurait sur Kenneth. Celui-ci fut troublé par une émotion subite. La tête du garçon posée sur sa poitrine l'empêchait de respirer. Il voulut la repousser, mais la chaleur des cheveux et de la peau sous sa main éveilla un désir inconnu. C'était comme s'il s'était réincarné dans ce garçon. Il pouvait le protéger, comme lui-même n'avait jamais été protégé. Il avait le pouvoir de conjurer les forces destructrices qui jadis avaient lacéré sa vie. Après tout, ils n'étaient pas si différents l'un de l'autre. La vive nef ne l'avait-elle pas dit? Le protégé revenait à assurer son propre salut. Singulière sensation que ce pouvoir. Il s'offrait à assouvir une faim dévorante, anonyme, qui l'habitait depuis son enfance. Avant qu'il ait eu le temps de s'en étonner, Yéma ouvrit les yeux. Son regard se posa sur le pirate, sombre, franc, empreint d'une expression de malheur sans fond qui se transforma subitement en émerveillement. Il leva la main pour lui toucher la joue.
« Vous êtes vivant !»
murmura-t-il, empli d'une crainte respectueuse. Sa voix divaguait comme s'il était pris de délire, mais la joie illuminait ses yeux.
« Vous étiez en mille morceaux, exactement comme un vitrail, en mille morceaux. Tant de morceaux dans un homme. Incroyable ! Pourtant vous êtes revenu !»
Ses paupières s'affaissèrent dans un soupir.
« Merci. Merci. Je ne voulais pas mourir. »
Il cligna les yeux et, paraissant soudain s'éveiller, leva la tête et regarda autour de lui d'un air hébété.
« J'ai dû m'évanouir, »
se dit-il à lui-même d'une petite voix.
« Je suis entré en transe si profondément. Cela ne m'était jamais arrivé, mais Bérandol m'avait prévenu. Je crois que j'ai eu de la chance d'avoir pu revenir. »
Il se renversa brusquement contre le dossier de sa chaise.
« Je crois que nous avons tous les deux eu de la chance, »
conclut-il d'une voix pâteuse.
« Ma jambe, ça ne va pas !»
Sans la tête du garçon sur sa poitrine, il lui était plus facile de respirer et de parler. Il était libre maintenant de se concentrer entièrement sur l'étrange sensation qu'il avait de son corps tronqué.
Elle est engourdie. Je l'ai traitée avec de l'écorce de quasi pour supprimer la douleur pendant un temps. Vous devriez dormir tant que vous le pouvez. La souffrance va revenir. Nous n'avons pas assez d'écorce pour l'éliminer pour de bon.
Tu me gênes,
dit Etta d'une voix acerbe. Yéma sursauta d'un air coupable. Elle était à côté de lui, une tasse d'eau dans les mains. Il ne la gêna pas vraiment. Elle aurait pu tout simplement passer de l'autre côté du lit. Pourtant, il comprit le sens réel de ses paroles.
« Je vous demande pardon, »
dit-il précipitamment et il se leva. Il fit deux pas en titubant vers la porte, puis s'effondra sur le plancher comme un chiffon. Il resta là, sans bouger, évanoui. Etta s'exclama agacé.
« Je vais appeler un homme, qu'il l'emmène !»
Le pirate fut affligé de voir le garçon qui gisait inconscient. Elle lui tendit la tasse qui dégouttait d'eau. Il sentit la fraîcheur de sa main au long doigt sur sa nuque, tandis qu'elle lui soutenait la tête. Sa soif devint soudain ardente. C'était l'eau du navire. Ni fraîche, ni froide, elle avait le goût du tonneau où elle avait séjourné. C'était du nectar. Il but tout d'un trait.
« Encore !»
croassa-t-il quand elle reprit la tasse.
« Tout de suite !»
Il la suivit des yeux quand elle se retourna vers le pichet. Il remarqua au passage, le garçon affaissé par terre. Tout à l'heure, il avait pensé à quelque chose. À ce propos, à quelque chose d'urgent qu'Etta devait faire. C'était important, mais il n'arrivait plus à se rappeler. Il commençait à flotter, à s'élever au-dessus du lit. L'expérience était à la fois déconcertante et agréable. La tasse d'eau revint. Il la vida en entier.
« Je peux voler, » dit-il. « Maintenant que la douleur s'en est allée, je peux voler. C'était la douleur qui me retenait en bas. »
Elle lui sourit tendrement.
« Tu as la tête qui tourne, et puis tu es peut-être encore un peu ivre. »
Il hocha la tête. Il ne put s'empêcher de sourire d'un air béat. Une vague de reconnaissance l'envahit. Il avait vécu si longtemps avec la souffrance, et maintenant elle était partie. C'était merveilleux. Son cœur se gonfla d'une gratitude qui engloba le monde entier. C'était le gamin qui avait accompli ce miracle.
Il regarda Yémin étalé sur le plancher. Il est tellement bien, ce garçon, dit-il affectueusement. On tient beaucoup à lui, le navire et moi.
Il commençait à s'endormir, mais parvint à reporter les yeux sur la femme. Elle lui effleurait la joue. Avec effort, il lui saisit la main.
« Tu vas prendre soin de lui. Pour moi, n'est-ce pas ?»
Il promenait les yeux sur le visage d'Etta, de sa bouche à ses yeux, sans pouvoir saisir la figure en son entier. Il lui était trop pénible d'accommoder.
« Je peux compter sur toi, n'est-ce pas ?»«
C'est ce que tu veux ?»
questionna-t-elle à contre-cœur.
« Plus que tout !»
déclara-t-il avec passion.
« Sois gentille avec lui. »«
Si c'est ce que tu veux, très bien, »
dit-elle de mauvaise grâce.
« Bien, bien, »
approuva-t-il en lui serrant doucement les doigts.
« Je savais que je pouvais te demander cela. Maintenant, je vais dormir. »
Et il ferma les yeux. Quand Yémin rouvrit les siens, il y avait un coussin sous sa tête et une couverture jetée sur lui. Il était étendu sur le plancher de la cabine du capitaine. Il chercha à retrouver ses esprits. Des fragments d'un rêve sur un vitrail flottaient en lui. Un gamin apeuré se cachait derrière le vitrail. Il était cassé. Sans savoir comment, Yémin en avait rassemblé les morceaux. Le garçon lui en avait été reconnaissant. Non, non. Dans le rêve, c'était lui, le garçon. Non, il avait réuni les morceaux de l'homme tandis que Bérandol et Vivacia lui donnaient des conseils derrière un rideau d'eau. Il y avait un serpent et un dragon aussi. Une étoile à sept branches qui faisait atrocement mal. Puis, il s'était réveillé. Et Etta avait été agacée et... Rien à faire. Il n'arrivait pas à rassembler les fragments. La longue journée s'était brisée en morceaux qu'il ne pouvait raccorder. Certains, il le savait, provenaient de ses rêves. D'autres semblaient implacablement réels. Avait-il vraiment amputé la jambe d'un homme plus tôt cet après-midi-là? De tous ses souvenirs, celui-ci était le plus invraisemblable. Il ferma les yeux et chercha Vivacia comme à tâtons. Il avait conscience d'elle, comme toujours quand il tendait son esprit. Entre eux, la communion était muette et constante. La vive nef paraissait distraite. Non qu'elle se désintéressât de lui, mais elle était préoccupée par autre chose. Peut-être était-elle aussi désorientée que lui. Allons. Rester allongé là ne l'avançait à rien. Il roula la tête et leva les yeux vers la couchette. La poitrine de Kenneth se soulevait de façon rassurante sous le drap. Il avait une mine affreuse, mais il était vivant. Au moins, cette partie-là du rêve était-elle réelle? Il respira profondément et, en s'aidant de ses bras, se hissa avec prudence, luttant pour franchir un mur de vertige. Jamais une transe ne l'avait à ce point affaibli. Il ne savait pas encore très bien ce qu'il avait fait. Il n'était même pas certain d'avoir fait quelque chose. Au monastère, au cours de ses transes, il avait appris à s'immerger entièrement dans son art, et les différentes tâches qu'il accomplissait devenaient actes de création. Il lui semblait qu'il avait appliqué la même méthode pour soigner Kenneth, mais il ne comprenait pas de quelle manière il y était parvenu. Il ne se souvenait pas de s'être préparé à une transe. Une fois sur pied, il avança à pas précautionneux jusqu'à la couchette. Était-ce là qu'on ressentait quand on était ivre? Vacillant et étourdi, les couleurs trop vives, les contours des objets trop nets? C'était désagréable. Comment pouvait-on volontairement rechercher ces sensations? Il s'arrêta au bord du lit. Il redoutait d'examiner les pansements de Kenneth, mais il le fallait. La jambe continuait peut-être à saigner. Dans ce cas, Yéma n'avait aucune idée de ce qu'il ferait. Il désespérait. Il tendit la main avec circonspection vers la couverture.
« Ne le réveille pas, s'il te plaît !»
La voix d'Eta était si douce qu'il la reconnut à peine. Il se tourna d'un bloc pour la regarder. Elle était assise dans un fauteuil, dans un coin de la pièce. Elle avait les yeux caves, il ne l'avait jamais remarqué. Elle faisait courir une aiguille sur une étoffe bleu foncé étalée sur ses genoux. Elle leva la tête, cassa le fil avec ses dents, retourna son ouvrage et commença un nouvel ourlet.
« Il faut que je voie s'il saigne encore. »
Ses paroles résonnèrent pâteuses et déformées à ses propres oreilles.
« Il ne semble pas. Mais si tu défais les bandages pour examiner la plaie, tu risques de le faire saigner à nouveau. Il vaut mieux ne pas y toucher. »
Il s'est réveillé. Sa tête commençait à s'éclaircir.
« Brièvement. Juste après que tu l'as ramené. » Je lui ai donné à boire, beaucoup, puis il s'est rendormi. Il dort depuis.
Yéma se frotta les yeux.
Depuis combien de temps? Presque toute la nuit,
dit-elle placidement.
Le jour va bientôt se lever.
Il ne s'expliquait pas la gentillesse qu'elle montrait à son égard. Non qu'elle le regardât avec chaleur ni qu'elle lui sourit, mais quelque chose... Une note de jalousie ou de méfiance omniprésente avait disparu de sa voix. Yéma était content qu'elle ne semblât plus le détester, mais il ne savait pas très bien comment réagir.
« Eh bien, dit-il niaisement, je crois que je devrais retourner dormir un petit moment. »«
Dors ici ?» suggéra-t-elle. « C'est propre et il fait chaud, et tu es près de Kenneth s'il a besoin de toi. »«
Merci. »
répondit-il gauchement. Il hésitait à s'allonger ici sur le plancher. Son lit, c'était le pont ou qu'il aille sur le navire, mais l'idée qu'on l'observe pendant son sommeil le dérangeait. Ce qui se produisit alors fut encore plus étrange. Elle secoua son ouvrage, le tint en l'air entre deux. Son regard passait de lui à son travail, puis revenait sur lui. C'était une culotte qu'elle mesurait du regard pour vérifier si elle lui irait. Il eut l'impression qu'il devait dire quelque chose, mais il ignorait quoi. Elle replia la culotte sur ses genoux sans faire de commentaire, renfila son aiguille et reprit son travail. Il retourna à sa couverture comme un chien docile et s'en enveloppa comme d'un châle, ne pouvant se résoudre à s'allonger. Puis, il contempla Etta jusqu'à ce qu'elle lui rendît son regard. « Comment êtes-vous devenu pirate ?» lui demanda-t-il brusquement, surpris lui-même par ses propres paroles. Elle inspira, puis répondit pensivement, sans un soupçon de regret dans la voix. « Je faisais la putain dans une maison à partage. Kenneth s'est pris d'amitié pour moi. Un jour, je l'ai aidé à tuer des hommes qui l'avaient attaqué. Après quoi, il m'a sorti du bordel et m'a amené ici. D'abord, je me demandais pourquoi il m'avait pris sur son bateau, je ne savais pas ce qu'il attendait de moi. Puis, au bout d'un certain temps, j'ai compris son intention. Je pouvais être bien plus qu'une putain si je voulais. Il me donnait ma chance. » Il la regarda, les yeux ronds, choqués. Non parce qu'elle avait avoué avoir tué pour Kenneth, c'était bien loin pour un pirate. Mais elle s'était elle-même traitée de putain. C'était un mot d'homme, l'injure dégradante qu'on lance à une femme. Mais elle ne paraissait pas avoir honte. Elle brandissait le mot comme une épée, tranchant toutes les idées préconçues qu'il s'était faites sur elle. Elle avait gagné sa vie avec son sexe et ne semblait pas le regretter. Il sentit naître en lui un étrange frisson d'intérêt. Il la vit tout à coup comme un être plus fort. « Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être une putain ?» Peu habitué à prononcer le mot, il l'accentua exagérément. Il n'avait pas eu l'intention de le faire sonner ainsi, ni même de poser la question. Était-ce Vivacia qui l'y avait poussé ? Etta fronça les sourcils, pensant qu'il lui en faisait reproche. Elle le regarda bien en face, l'œil éteint, et répondit « J'étais une fille de pute. » Puis, avec une pointe de défi, elle lui demanda à son tour « Et toi, qu'est-ce que tu faisais avant de devenir l'esclave de ton père sur ce bateau ?»«
J'étais prêtre de ça. Du moins, j'étais novice. »
Elle leva un sourcil. « Vraiment ? Je préfère être une putain !» Ces paroles mirent un point final à la conversation. Il n'y avait rien à répondre. Il ne se sentait pas offensé. Elle avait fait clairement ressentir le gouffre qui les séparait, démontrant l'impossibilité de toute communication et par là même de toute offense mutuelle. Elle reprit sa couture, la tête penchée. Son visage était d'une impassibilité appliquée. Yémin sentit qu'il avait perdu une occasion. Tout à l'heure, il lui avait semblé qu'elle lui ouvrait une porte. Maintenant, la barrière était de nouveau là, aussi solide que jamais. Pourquoi devrait-il y attacher de l'importance ? La profondeur de sa déception l'étonna. Parce qu'Etta était le moyen détourné d'influencer Kenneth ? Parce que Yémin pouvait un jour avoir besoin de sa bienveillance ? Lui souffla une petite voix sournoise. Il écarta cette pensée. Parce qu'elle est, elle aussi, une création de ça, se dit-il avec fermeté. Je devrais faire un effort pour me lier d'amitié avec elle, pour elle-même, et non pour l'influence qu'elle peut exercer sur Kenneth. Elle ne ressemble à aucune femme que j'ai connue, et je ne peux résister à l'envie de percer son mystère. Il ferma les yeux en s'efforçant de se débarrasser de tout faux-semblant. Il reprit la parole avec sincérité.
« S'il vous plaît, peut-on réessayer ? J'aimerais que nous soyons amis. »
Elle leva les yeux, surprise. Puis elle eut un sourire sans joie.
« Au cas où je pourrais te sauver la vie plus tard ? En intervenant auprès de Kenneth ?
Non ! »
protesta-t-il.
« Tant mieux. Parce que là-dessus, je n'ai aucune influence sur lui. »
Elle baissa le ton.
« Ce qui existe entre Kenneth et moi, je ne m'en servirai pas de cette façon. »
Yémin sentit une ouverture.
« Et je ne vous le demanderai pas.
C'est seulement... ce serait bien de pouvoir parler à quelqu'un. Simplement parler. Il m'est arrivé tant de choses récemment. Tous mes amis sont morts,
Mon père me méprise, les esclaves que j'ai aidés n'ont pas l'air de se rappeler ce que j'ai fait pour eux. Je soupçonne Saadar de vouloir en finir avec moi. »
Sa voix se réduisait à un murmure quand il se rendit compte qu'il devait avoir l'air de s'apitoyer sur son sort. Il prit une inspiration, puis poursuivit sur un ton qui lui parut encore plus larmoyant.
« Je suis plus seul que je ne l'ai jamais été. Et je ne sais pas du tout ce que je vais devenir. »«
Qui le sait ?»
lui demanda Etta durement.
« Avant, je le savais ?»
répondit-il à mi-voix, s'absorbant en lui-même.
« Quand j'étais au monastère, la vie semblait s'étendre devant moi comme une route brillante. Je savais que je poursuivrais mes études. Je savais que j'excellais dans le travail que j'avais choisi. J'adorais ma vie, sincèrement. Je n'avais aucun désir d'y changer quoi que ce soit.
Alors on m'a rappelé à la maison. Mon grand-père est mort et mon père m'a forcé à embarquer sur le navire.
Depuis, je n'ai plus voix au chapitre. Chaque fois que j'essaie de reprendre ma vie en main, je n'aboutis qu'à la faire dévier de façon encore plus aberrante. »
Elle cassa le fil d'un coup de dent.
« Tout ça me paraît normal à moi. »
Il secoua tristement la tête.
« Je l'ignore. Peut-être pour les autres. Je sais seulement que je n'étais pas habitué à cela, ce n'est pas ce que j'attendais. J'essaie de trouver le moyen de revenir à mon point de départ pour rétablir ma vie d'avant, mais... « Tu ne peux pas revenir en arrière, »
lui dit-elle franchement d'une voix neutre.
« Cette partie-là de ta vie est terminée. Mets-la de côté comme une étape achevée. C'en est fini pour toi. Personne ne peut décider de ce que sera sa vie. »
Elle leva vers lui un regard qui le transperça.
« Sois un homme. Tâche de découvrir où tu te trouves maintenant et repars de là en faisant contre mauvaise fortune bon cœur. Accepte, et tu pourras survivre. Si tu restes en arrière, en répétant que ce n'est pas ta vie, que tu n'es pas fait pour ça, tu passeras à côté.
Il se peut que tu n'en meures pas, mais autant être mort pour ce que ça te rapportera à toi ou aux autres. »
Yémin était abasourdi. Aussi dure qu'elle soit, ses paroles étaient remplies de sagesse. Presque machinalement, il adopta une respiration de méditation, comme s'il s'agissait d'un précepte de ça sorti tout droit des Écritures. Il en étudia la pensée en la poussant jusqu'à ses conclusions logiques.
Oui, ses pensées venaient de ça. Elles en étaient dignes. Accepte, repars de zéro, retrouve l'humilité.
Il avait préjugé de sa vie. Son plus grand défaut, Bérandol l'avait mis en garde.
Il avait l'occasion de faire le bien, là, s'il s'en donnait la peine. Pourquoi avait-il absolument voulu retourner à son monastère comme si ça n'existait que là-bas et pas ailleurs? Que venait-il de dire à Etta? Que plus il essayait de reprendre sa vie en main, plus il la faisait dévier. Ce n'était guère étonnant. Il était allé contre les desseins que ça avait formés pour lui.
Il comprit soudain ce que les esclaves avaient dû ressentir quand les fers étaient tombés de leurs chevilles et de leurs poignets. Les paroles d'Etta l'avaient libéré. Il pouvait lâcher les buts qu'il s'était lui-même imposés. Il lèverait les yeux, regarderait autour de lui et verrait quelle voie ça lui ferait clairement signe d'emprunter.
« Cesse de me dévisager comme ça !»
dit-elle sur un ton impérieux où perçait une pointe de malaise. Yémin baissa aussitôt la tête.
« Je n'avais pas l'intention de vous dévisager. Vos paroles ont fait surgir en moi des idées. Etta, où avez-vous appris de telles choses ?»«
Quelles choses ? » demanda-t-elle tout à fait soupçonneuse à présent.
« Accepter la vie et en prendre son parti. »
Exprimé à haute voix, le concept paraissait si simple. Tout à l'heure, ces mots avaient résonné en lui comme de grandes cloches de vérité.
C'était juste ce qu'on disait. L'illumination, c'est simplement la vérité énoncée au bon moment.
« Dans un bordel ?»
Cette révélation même ouvrit son esprit à la lumière.
« Alors ça est vraiment là aussi,
dans toute sa sagesse et dans toute sa gloire. Elle sourit des lèvres et peut-être aussi des yeux. À en juger d'après le nombre d'hommes qui grognent son nom quand ils en ont fini, je dirais que ça est bien là, c'est certain. Yémin détourna le regard. L'image était désagréablement saisissante. « Cela doit être pénible de gagner sa vie comme ça, » lâcha-t-il étourdiment.
« Tu crois ? »
fit-elle avec un petit rire cassant. « Ça m'étonne de t'entendre dire ça. Mais tu n'es encore qu'un gamin. La plupart des hommes nous déclarent qu'ils aimeraient bien gagner leur vie en s'allongeant sur le dos. Ils croient qu'on a la belle vie, nous, les marchandes, de plaisir. »
Yémin réfléchit un moment.
« Moi, je crois que ce doit être très dur d'être à ce point intime et vulnérable avec un homme pour lequel on n'a aucun sentiment. »
L'espace d'une fraction de seconde, les yeux d'État s'assombrirent et devinrent pensifs.
« Au bout d'un moment, les sentiments disparaissent, » dit-elle d'une voix presque enfantine. « Et c'est un soulagement. Tout devient beaucoup plus facile. »
Alors ce n'est pas pire que n'importe quel sale boulot. À moins qu'on tombe sur un homme qui fasse mal. Et encore, on peut se faire mal en travaillant n'importe où. Les fermiers sont encornés par leurs béliers, les ouvriers agricoles dégringolent des arbres fruitiers, les pêcheurs perdent des doigts ou se noient.
Sa voix s'éteignit. Elle reporta les yeux sur sa couture. Yémin garda le silence. Au bout d'un moment, un pâle sourire apparut sur les lèvres d'État.
« Kenith m'a rendu mes sentiments. Je l'ai haï pour cela. C'est la première chose qu'il m'a réapprise à ressentir. La haine. Je savais que c'était dangereux. C'est dangereux pour une putain d'avoir des sentiments. Et je l'ai haï encore davantage quand j'ai compris qu'il m'avait fait de nouveau éprouver des émotions.
Pourquoi ? » Mais Yémin ne posa pas la question. Il n'en eut pas besoin.
Il est venu au bordel un jour, et il a regardé autour de lui, fit-elle d'une voix lointaine. Il était très élégant, très propre. Une veste de drap vert foncé avec des boutons d'ivoire et des flots de dentelle blanche sur la poitrine et aux manchettes. Il n'était jamais venu chez Bethel avant, mais je savais qui il était. Même alors, presque tout le monde à partage savait qui était Kenith. Il ne venait pas au bordel comme la plupart des hommes, avec un ou deux amis ou tout l'équipage. Il ne fanfaronnait pas, il n'était pas ivre. Il venait seul, sobre, et il savait ce qu'il voulait. Il nous a regardés, bien regardés, et il m'a choisi.
« Elle fera l'affaire, » il a dit à Bethel.
Alors il a commandé la chambre qu'il voulait et le repas. Il a payé Bethel, là, devant tout le monde. Puis, il s'est avancé vers moi, comme si nous étions déjà seuls. Il s'est penché. J'ai cru qu'il allait m'embrasser. Il y en a qui font ça. Mais il a humé l'air. Alors il m'a ordonné d'aller me laver. Ah, quelle humiliation! Qu'une putain puisse se sentir humiliée, ça, on ne le croirait pas. Eh bien si, elle peut. Néanmoins, j'ai fait ce qu'il exigeait, je suis monté et j'ai fait ce qu'il demandait, ni plus ni moins. J'étais en rage et j'ai été froide comme de la glace avec lui. Je m'attendais à ce qu'il me gifle, qu'il me repousse ou qu'il se plaigne à Bethel, mais, au contraire, ça a paru lui convenir.
Elle se tut. Le silence résonna un instant aux oreilles de Yémin. Il ne voulait pas en entendre davantage, et pourtant il espérait avidement qu'elle allait continuer. C'était du voyeurisme pur et simple, une intense curiosité qu'il avait d'apprendre en détail ce qui se passe entre un homme et une femme. Il connaissait la mécanique physique, on ne lui avait jamais caché cet aspect-là. Mais le fait de savoir comment on fait n'éclaire pas sur la façon dont cela se passe. Il attendit, les yeux fixés sur les pieds d'État. Il n'osait pas regarder son visage.
À chaque fois après ça, c'était pareil. Il venait, il me choisissait, il me disait d'aller me laver, il me prenait. C'était si froid avec lui.
Les autres qui venaient au bordel, ils faisaient un peu semblant. Ils flirtaient, ils riaient avec les filles. Ils racontaient des histoires pour voir celle qui écoutait le mieux. Ils se comportaient comme si nous avions notre mot à dire. Ils nous rendaient rivales. Certains dansaient même avec les putains ou apportaient de petits cadeaux, des friandises ou des parfums pour leurs préférés. Pas Kenneth. Même quand il a commencé à m'appeler par mon nom, cela restait toujours une transaction. Elle secoua la culotte, la remit à l'endroit et recommença à coudre. Elle reprit haleine comme si elle allait continuer. Puis, elle secoua très légèrement la tête et poursuivit son ouvrage. Yémin ne savait que dire. Bien que fasciné par son histoire, il se sentait tout à coup terriblement fatigué. Il souhaitait se rendormir, mais il savait que même s'il s'étirait sur le sol, il ne pourrait trouver le sommeil. Dehors, la nuit pâlissait. Bientôt, ce serait l'aube. Il eut un rapide frémissement de triomphe. Il avait amputé la jambe de Kenneth hier, et aujourd'hui, le pirate était toujours en vie. Il avait réussi. Il l'avait sauvé. Puis, il se fit de sévères reproches. Si le pirate vivait encore, c'était seulement parce que sa volonté avait coïncidé avec celle de ça. Penser autrement était présomptueux. Il jeta un coup d'œil à son patient. Sa poitrine se soulevait régulièrement. Pourtant, il savait déjà, avant d'avoir regardé, que Kenneth était vivant. Vivacia le savait. Et à travers elle, il le savait aussi. Il n'avait pas envie de réfléchir à cette relation ni de s'interroger sur sa force. Il était déjà assez pénible d'être ainsi attaché au navire. Il ne voulait pas partager ce genre de lien avec le pirate. Etta émit un petit bruit, comme si elle retenait son souffle. Yémin reporta son attention sur elle. Elle ne le regardait pas. Elle avait les yeux fixés sur son ouvrage. Pourtant, elle rayonnait d'une fierté tranquille. Apparemment, après avoir mûrement réfléchi, elle avait décidé de lui dire quelque chose. Il l'écouta en silence. « J'ai cessé de haïr Kenneth quand j'ai compris ce qu'il me donnait chaque fois qu'il venait. L'honnêteté. Il me préférait et il ne craignait pas de le montrer. Devant tout le monde, il me choisissait à chaque fois. Il ne m'appâtait pas par des minauderies, des afféteries. Je correspondais à ce qu'il voulait et j'étais à vendre, alors il m'achetait. Il me montrait que tant que je serais une putain, nous ne partagerions jamais autre chose. Une honnête transaction. » Un étrange petit sourire flotta sur ses lèvres. Parfois, Bethel lui proposait d'autres femmes, elle en avait beaucoup. Certaines étaient plus distinguées que moi, beaucoup plus belles. D'autres connaissaient des moyens exotiques de plaire à un homme. Bethel cherchait de la sorte à se gagner ses faveurs. Elle faisait ça avec les clients de la maison pour se conserver leur loyauté. Elle leur proposait de la variété et les tentait pour susciter chez eux de nouveaux besoins. Cela lui déplaisait que Kenneth en revienne toujours à moi. Elle se sentait moins importante, je crois. Une fois, devant tout le monde, elle lui a demandé « Pourquoi, Etta, cette grande perche d'un commun, d'un ordinaire ? J'ai des courtisanes qui ont fréquenté les plus belles maisons de Calcède, ou, si vous aimez mieux l'innocence, j'ai d'adorables petites vierges qui viennent de la campagne. Vous pouvez vous offrir ce qu'il y a de mieux chez moi. Pourquoi préférez-vous une pute de second choix ?» Le petit sourire d'Etta anima ses yeux. Elle croyait lui faire honte devant les autres clients, comme s'il se souciait de ce qu'il pouvait penser. Mais il a répondu « Je ne confonds jamais le coût d'une chose avec sa valeur. Etta, va te laver, je monte. » Après cela, toutes les autres filles m'ont appelée la putain de Kenneth. Elles voulaient me blesser, mais le surnom ne m'a jamais dérangé. Manifestement, Kenneth était plus profond que Yémin ne l'avait cru. La plupart des marins ne regardaient pas au-delà du visage et du corps d'une putain quand ils faisaient leur choix, mais, apparemment, Kenneth avait vu au-delà. D'un autre côté, peut-être la femme se mentait-elle à elle-même. Il lui jeta un rapide coup d'œil. Le malaise l'envahit. D'où avait jailli cette idée? L'espace d'un instant, il avait senti la brûlure de la jalousie. Cela venait-il du navire?
Il éprouva soudain le besoin d'aller parler avec Vivacia. Quand il se leva, ses genoux craquèrent. Le bas de son dos était tout raidi et ses épaules douloureuses. Quand avait-il dormi dans un vrai lit, dormi jusqu'à se réveiller spontanément? Il devrait bien, un jour ou l'autre, tenir compte des besoins de son corps, sans quoi celui-ci ferait valoir ses exigences de nourriture et de repos. Bientôt, se promit-il. Dès qu'il se sentirait en sécurité, il s'occuperait de lui-même.
« C'est l'aube, » dit-il gauchement. « Il faut que j'aille voir le navire et mon père, et que je dorme aussi un peu. Vous m'enverrez chercher si Kenneth se réveille ?»«
S'il a besoin de toi, » répondit froidement Etta.
Peut-être était-ce là le but de toute la conversation. Faire comprendre sans ambiguïté à Yéma qu'elle avait droit de priorité sur Kenneth.
Le voyait-elle comme une menace, d'une certaine façon?
Il conclut qu'il n'en savait pas suffisamment sur les femmes. Elle porta son ouvrage à la bouche, cassa le fil d'un coup de dent, puis se leva à son tour en secouant le vêtement qu'elle venait d'achever.
« Pour toi !»
prononça-t-elle avec brusquerie en lui lançant la culotte, qui l'attrapa maladroitement au vol. Une jambe de la culotte lui battit légèrement la joue.
« Merci. » dit-il, hésitant. Elle ne le regarda ni ne répliqua. Elle ouvrit un coffre à vêtements, fouilla à l'intérieur, en sortit une chemise.
« Tiens, ça devrait aller. C'est une de ces vieilles chemises. »
Elle passa brièvement le doigt sur l'étoffe.
« C'est un très beau tissage. Il connaît la qualité, celui-là. »«
C'est sûr, » répondit Yéma. « Il vous a choisi comme vous me l'avez dit. »
Il s'essayait pour la première fois à la galanterie. Mais son compliment, qui rendit un son un peu artificiel, resta gauchement suspendu entre eux. Elle le dévisagea, tâchant de déterminer si les mots recelaient une insulte. Le garçon se sentit rougir. Qu'est-ce qui lui avait pris de dire une chose pareille?
Elle lui lança alors la chemise, qui déploya ses ailes comme un oiseau blanc, et lui tomba dans les mains.
C'était une belle chemise, au tissu lourd, solide et souple, beaucoup trop belle pour qu'on s'en débarrasse avec autant de désinvolture. Était-ce un message qu'Etta elle-même avait à peine conscience de faire passer?
Et il plia le vêtement sur son bras.
« Merci pour les habits !»
répéta-t-il, résolu à se montrer poli.
Elle braqua les yeux sur lui.
« Kenneth désire certainement que tu les portes. »
Puis elle ajouta, étouffant la gratitude qui montait en lui.
« Tu vas t'occuper de lui. Il exige la propreté de ceux qui l'entourent. Tu devrais prendre le temps de te laver aujourd'hui, cheveux y compris. »
« Je ne suis pas... »
commença-t-il, puis il s'interrompit. Il était sale. Il se rendit compte qu'il puait. Il s'était nettoyé les mains après l'amputation, mais il ne s'était pas lavé depuis des jours.
« Bien, »
dit-il avec humilité. Et il quitta la cabine. Le désordre et la promiscuité sur le bâtiment capturé semblaient presque normaux à présent. Les montants de portes fendues, les taches de sang sur les ponts et sur les cloisons n'accrochaient plus son regard. En émergeant à l'air libre, il s'effaça pour laisser passer un couple de faces de cartes. L'homme, un peu simplé, d'après le souvenir de Yéma, s'appelait Dedge. C'était un de ceux qu'Eta avait choisi pour tenir Kenneth. Il était toujours en compagnie de Saïla, plus jeune et plus vive. Ils remarquèrent à peine le garçon tant ils étaient absorbés l'un par l'autre. La vie réapparaissait. Il aurait dû s'y attendre. Après un désastre, c'était toujours le premier signe que l'espoir renaissait. Les hommes et les femmes formaient des couples. Il les suivit des yeux avec curiosité, en se demandant où il pourrait trouver un coin tranquille. Était-il esclave depuis longtemps? Se souciait-il encore d'intimité? Il s'aperçut alors qu'il les regardait, les yeux écarquillés et avec un mouvement d'agacement contre lui-même, il se rappela à l'ordre. Il avait des tâches à accomplir. S'entretenir avec Vivacia, aller voir son père, manger, se laver, dormir, s'occuper de Kenneth. Sa vie soudain prenait forme, avec un emploi du temps et un but précis. Il poursuivit son chemin. La Vivacia était toujours ancrée dans la petite crique. Une nuit seulement s'était-elle écoulée depuis qu'il s'était caché là. Le soleil qui dissipait la brume matinale serait bientôt assez fort pour réchauffer l'air. La figure de proue contemplait le large chenal, comme si elle montait la garde. Peut-être était-ce en effet ce qu'elle faisait.
« Je me demande si l'autre navire nous retrouvera jamais, » dit-elle tout haut en réponse à la pensée muette de Yéma. « Comment peuvent-ils savoir où nous sommes ?»«
J'ai l'impression que Kenith et Sorkor naviguent ensemble depuis longtemps, et ils ont leur façon de faire qu'ils transmettent à leur équipage. D'ailleurs, Kenith est toujours vivant. D'ici peu, il se portera peut-être assez bien pour nous guider jusqu'à Anse au Taureau, »
suggéra-t-il pour tenter de rassurer la vive nef.
« Peut-être, »
concéda-t-elle à contre-cœur.
« Mais je me sentirais mieux si nous étions déjà en route. Il a survécu à la nuit, c'est vrai, mais il est loin d'être fort et rétabli. Hier, il est mort quand il a cessé de lutter. Aujourd'hui, il s'accroche à la vie, ses rêves sont agités, cela ne me plaît pas. J'aimerais mieux qu'il soit entre les mains d'un véritable guérisseur. »
Yéma fut piqué au vif. Certes, il n'était pas un guérisseur confirmé, mais elle aurait pu lui exprimer quelque admiration devant ce qu'il avait accompli jusqu'ici. Il baissa les yeux vers le pont où il avait pratiqué l'opération rudimentaire. Le sang de Kenith, qui s'était répandu autour de son corps allongé, avait dessiné le sinistre contour de sa jambe mutilée et de sa hanche, non loin de l'empreinte sanglante et ineffaçable de la main de Yéma. L'ombre du pirate persisterait-elle de même?
Mal à l'aise, le garçon y traîna son pied nu.
Il eut l'impression de promener les doigts sur un instrument à cordes, à ceci près que la corde sollicitée ne rendit pas de son. La vie de Kenith se mit soudain à chanter avec la sienne. Il chancela sous la violence du choc et s'assit sans douceur sur le pont. Au bout d'un moment, il essaya de définir pour lui-même la nature de ce contact. Il ne s'agissait pas des souvenirs de Kenith, ni de ses pensées, ni de ses rêves, mais il avait eu une conscience aiguë du pirate. Il compara le phénomène au pouvoir qu'ont ainsi un parfum, une odeur, de réveiller brusquement des souvenirs précis, mais la sensation avait été 100 fois plus intense. La présence de Kenith l'avait presque fait sortir de lui-même.
« Maintenant, tu as un aperçu de ce que j'éprouve ?»
dit la vive nef à mi-voix. Puis elle ajouta,
« Je ne pensais pas que cela pouvait t'atteindre de cette manière. »«
Qu'est-ce que c'était ?»«
La force du sang. Le sang a une mémoire. Le sang ne se souvient pas des jours, des nuits, des événements. Le sang se souvient de l'identité. »
Yéma garda le silence, s'efforçant de saisir pleinement le sens de ses paroles. Il tendit la main vers l'ombre de Kenith répandue sur le pont. Alors, il retira les doigts. Toute la curiosité du monde ne le pousserait pas à retenter l'expérience. La puissance du phénomène l'avait étourdi et l'avait quasiment expulsé de lui-même.
« C'est ce que tu as ressenti, toi ?»
ajouta la vive nef en répondant à sa pensée.
« Toi, qui as ton sang propre dans les veines, au moins tu possèdes un corps, des souvenirs, une identité. Tu peux écarter Kenith et dire « Il n'est pas moi ». Mais je n'ai rien de tout cela. Je ne suis que du bois imprégné des souvenirs de ta famille. Celle que tu appelles Vivacia s'est bricolée une identité. Quand le sang de Kenith m'a imbibé, j'étais dans l'incapacité de le refuser. Comme la nuit de la révolte des esclaves, quand ils sont entrés en moi, les uns après les autres, j'ai été dans l'incapacité de les repousser. La nuit où tout ce sang a été versé. Imagine-toi noyé dans des identités, non pas une ou deux, mais des dizaines. Ils s'effondraient sur mes ponts. Ils mourraient, mais à mesure que leur sang me pénétrait, je devenais leur réceptacle. Qu'ils soient esclaves ou membres d'équipage, cela revient au même, et ils sont venus s'ajouter à moi. Parfois, Yéma, c'en est trop. Je suis entraîné dans leur spirale. Je parcours leur chemin de sang et je sais qui ils étaient précisément. Je ne peux me délivrer de ces fantômes. Seule ton influence est plus puissante, toi qui me possèdes doublement. Par ton sang qui a pénétré mes planches et par ton esprit lié au mien.
Je ne vois vraiment que dire,
répondit-il piteusement.
Tu crois que je ne le sais pas déjà,
rétorqua-t-elle avec amertume. Un long silence tomba entre eux. Yémin eut l'impression que des planches même du pont émanaient un froid qui le pénétrait. Il s'en fut furtivement, ses nouveaux habits sous le bras, mais il emportait avec lui la certitude que, où qu'il aille, il ne la libérerait pas de sa présence.
Accepte la vie comme elle vient. C'étaient les paroles d'Éta tout à l'heure. Alors elle lui avait paru éclairante. Il essaya de s'imaginer résigné déjà, ayant accepté que leur destin soit lié pour toujours. Il secoua la tête.
Si c'est ta volonté, oh ça, je ne peux m'y soumettre avec joie,
dit-il à mi-voix. Ce fut douleur de sentir Vivacia faire écho à sa prière. Le soleil était déjà haut quand, des heures plus tard, la Marietta les retrouva. Le navire portait une longue érafle sur le bordage tribord que des matelots s'affairaient déjà à réparer. Marc, plus éloquent encore du combat et de la victoire, un chapelet de tête coupée se balançait à la proue. Le cri de la vigie avait fait sortir Yémin sur le pont. Il contemplait, écœuré et fasciné, le bâtiment à l'approche. Il avait assisté au carnage, la nuit où les esclaves s'étaient révoltés et emparés de la Vivacia. Mais ces trophées allaient au-delà du massacre. Ils témoignaient d'une sauvagerie calculée qu'il ne pouvait comprendre tout à fait. La foule massée le long de la lys, à côté de lui, acclama les dépouilles sanglantes. Pour eux, les têtes ne représentaient pas seulement le gouverneur qui avait fermé les yeux sur l'esclavage, mais Calcède, qui faisait preuve de la plus grande cupidité dans son marché aux esclaves. Alors que la Marietta approchait, Yémin distingua d'autres signes de la bataille avec la galère de patrouille. Certains pirates portaient des bandages rudimentaires, ce qui ne les empêchait nullement de sourire et de faire des signes à leurs compagnons de la Vivacia. Quelqu'un tira Yémin par la manche.
La femme, elle dit qu'il faut que vous veniez vous occuper du capitaine,
déclara Dedge d'un ton maussade. Le garçon le regarda avec attention, enregistrant la figure et le nom dans sa mémoire. Il s'efforça de voir l'homme au-delà de l'esclave au tatouage tentaculaire. Des yeux gris-bleu, des cheveux réduits à une frange au-dessus des oreilles. Malgré son âge, ses muscles saillaient à travers ses haillons. Atta se l'était déjà approprié. Il portait une ceinture de soie à la taille. La femme, l'avait-il appelée, comme s'il s'était agi d'un titre, comme si elle était la seule femme à bord? Yémin se dit qu'en un sens, c'était vrai.
« Je viens tout de suite, » répondit-il.
La Marietta mouillait l'ancre. Bientôt, on amènerait une embarcation et Sorcor aborderait pour faire son rapport à Kenith. Yémin ignorait pourquoi le capitaine l'avait demandé. Mais peut-être ce dernier lui permettrait-il de rester pendant la visite de Sorcor. Plus tôt, il était allé voir son père, qui avait insisté pour qu'il recueillît le plus de renseignements possibles sur les pirates. Il s'efforça de repousser le souvenir de ce moment pénible. Le confinement et la souffrance avaient rendu Kyle plus tyrannique que jamais. Il semblait croire que son fils était désormais son unique sujet. En vérité, le garçon se sentait à peine tenu d'être loyal envers lui, sauf par un reste de sens du devoir. Il trouvait risible son obstination à le convaincre d'espionner et de comploter afin de reprendre le navire. Mais il n'avait pas ri. Il l'avait seulement laissé fulminer pendant qu'il le soignait et le persuader d'avaler le pain sec et l'eau croupie, seule ration qu'on lui accordait. Il était plus facile de ne pas interrompre son flot de paroles. Il hochait la tête sans répondre grand-chose.
S'il avait tenté d'expliquer à Kyle leur situation à bord,
il n'aurait abouti qu'à le mettre en rage.
Il le laissait entretenir le rêve farfelu qu'un jour ou l'autre, il reprendrait le contrôle du bâtiment. C'était plus simple.
Bientôt, ils atteindraient Hans Otoro et devraient tous deux affronter leur nouvelle situation. Il n'allait pas batailler avec son père pour lui faire prendre conscience de la réalité. La réalité s'en chargerait bien elle-même.
Il frappa à la porte puis entra à la réponse douce d'Eta. Kenneth était réveillé. Il tourna la tête pour le saluer avec un
« Elle ne veut pas m'aider à m'asseoir !»«
Elle a raison. Vous ne devriez pas vous asseoir. Pas encore !» répondit Yéma. « Il faut rester allongé et vous reposer complètement. »« Comment vous sentez-vous » ajouta-t-il en posant la main sur le front du pirate.
Kenneth roula la tête pour éviter le contact.
« Très mal. Oh, ne me demande pas ce que je ressens. Je suis vivant. Qu'importe ce que je ressens. Sarkor va venir, tout frais de son triomphe. Et me voilà, moi, allongé, mutilé et puant comme un cadavre. Je ne veux pas qu'on me voie ainsi. Aide-moi au moins à m'asseoir. »
« Il ne faut pas, » protesta Yéma. « Le sang est en repos pour le moment. Restez tranquillement allongé. Si vous vous asseyez, les réservoirs des organes vont se modifier, faire déborder le sang qui devra alors trouver une sortie par votre plaie. Ça, je l'ai bien appris au monastère. »
« Et ça, je l'ai bien appris sur le pont. Un capitaine pirate qui ne peut plus commander son équipage se change aussitôt en appât à poisson. Je serai assis quand Sorkor viendra. »
« Même si cela doit vous tuer ?» demanda Yéma à mi-voix.
« Tu contestes ma volonté ?»
répliqua brusquement Kenneth.
« Non, pas votre volonté, votre bon sens. Pourquoi vouloir mourir ici, dans votre lit, à seule fin d'impressionner un homme qui m'a impressionné, moi, par sa loyauté à toute épreuve à votre égard? Je crois que vous mésestimez votre équipage. Ils ne vont pas s'en prendre à vous pour la raison que vous avez besoin de repos.
« Petit impertinent !»
déclara Kenneth avec dédain. Il détourna la tête et se mit à contempler la cloison.
Que sais-tu de la loyauté? Que sais-tu du commandement d'un navire? Je te le répète, moi, que je ne veux pas être vu ainsi.
Soudain, Yéma reconnut la note qui perçait dans sa voix. Pourquoi n'avez-vous pas averti que la douleur était revenue? L'essence d'écorce de Quasi peut l'engourdir. Vous aurez les idées plus claires sans être distrait par la souffrance. Et vous serez en mesure de vous reposer.
Tu veux dire que je serai plus malléable si je suis drogué?
Lança le pirate d'un ton hargneux.
Tu ne cherches qu'à m'imposer ta volonté.
Il porta à son front une main tremblante.
J'ai la migraine. Quel rapport avec la jambe? Ce n'est pas plutôt l'effet d'un poison que tu m'as donné?
Malgré son épuisement, il parvint à afficher un amusement sournois. Manifestement, il croyait avoir surpris Yéma la main dans le sac.
Bouleversé, le garçon fut réduit au silence. Comment réagir face à pareille méfiance, face à de tels soupçons?
Il s'entendit répondre d'une voix froide et contrainte.
« Je ne vous forcerai pas à prendre des remèdes, capitaine. Si la douleur empire au point que vous désiriez l'apaiser, appelez-moi et je vous appliquerai de l'écorce de Quasi. En attendant, je ne vous dérangerai plus, »
dit-il par-dessus son épaule en se dirigeant vers la porte.
« Si vous vous asseyez pour recevoir Sorkor, l'hémorragie que vous provoquerez mettra fin à notre vie à tous les deux. Mais je ne peux pas aller contre votre entêtement. »«
Suffit !»
siffla Eta à tous les deux. « Il y a une solution simple qui satisfera tout le monde. Me permettez-vous de la dire ?»
Kenneth roula la tête en arrière pour la regarder d'un œil morne.
« Et c'est ?»
demanda-t-il.
« Ne recevez pas Sorkor.
Ordonnez-lui simplement de gagner Hans Otoro et nous le suivrons.
Il n'a pas besoin d'être au courant de votre état de faiblesse. Quand nous serons là-bas, vous aurez peut-être repris des forces. »
Une étincelle rusée s'alluma dans les yeux de Kenneth.
« Hans Otoro est trop proche, » déclara-t-il. « Laissons-le nous amener jusqu'à partage. Cela me donnera davantage de temps pour me rétablir. »
Il marqua une pause.
« Mais Sorcor va sûrement s'étonner que je ne désire pas entendre son rapport. Il va se douter de quelque chose. »
Elle se croisa les bras sur la poitrine.
« Dites que vous êtes occupé.
Avec moi ?»
ajouta-t-elle avec un petit sourire.
« Envoyez le gamin passer le mot à Brigg, qui le transmettra à Sorcor. Il acceptera. »«
Cela peut réussir, »
reconnut lentement Kenith. Il fit signe de la main à Yémin.
« Vas-y tout de suite. Dis à Brigg que je suis avec Eta et que je ne veux pas être dérangé. Transmets-lui l'ordre de se diriger vers Partage. »
Il plissa les yeux. Était-ce sournoiserie ou épuisement?
« Fais-lui comprendre que je pourrais juger de sa compétence sur sa façon de naviguer entre ici et là-bas et que c'est une sorte de mise à l'épreuve, non une défaillance de ma part. »
Ses paupières s'affaissèrent plus lourdement.
« Attends un peu qu'on se soit remis en route, puis reviens me voir. J'apprécierai la façon dont tu t'acquitteras de cette tâche. Convainc Brigg et Sorcor, alors peut-être te ferai-je confiance pour m'engourdir la jambe. »
Il ferma tout à fait les yeux et ajouta un ton plus bas.
« Peut-être te laisserai-je la vie. »